présente « Avant que j'oublie » d'Anne Pauly, lue par Constance Dollet. Le soir où mon père est mort, on s'est retrouvé en voiture avec mon frère. Parce qu'il faisait nuit, qu'il était presque 23 heures, et que passé le choc, après avoir bu le thé amer préparé par l'infirmière et avalé à contre-cœur les morceaux de sucre qu'elle nous tendait pour qu'on tienne le coup, il n'y avait rien d'autre à faire que de rentrer. Finalement, avec ou sans sucre, on avait tenu le coup, pas trop mal. Pas mal du tout, même. D'ailleurs, c'était bizarre comme on tenait bien le coup. Incroyable. Si on m'avait dit. On avait rangé les placards, mis la prothèse de jambe, le gilet beige, les t-shirts et les slips dans deux grands sacs clairs, plié la couverture polaire verte, tachée de soupe et de sang, fait rentrer dans la boîte à médicaments une boîte à sucre décorée de petits bretons en costume traditionnel, le crucifix de poche, attaché par un lacet à une médaille de la Vierge, à un chapelet tibétain et à un petit Bouddha en corne. On avait sorti du chevet des petits sachets de moutarde, une compote abricot, un paquet de BN, faut pas se laisser entamer, une pince à épiler en plastique, un menu de la semaine sur lequel il avait essayé de noter quelque chose, des mots fléchés force 4, sa petite Bible, un recueil de haïkus, son livre sur Gandhi, son étui à lunettes mité en sky Bordeaux, trois critériums dont un très ancien, une gomme, 8 élastiques multicolores, une paire de lunettes rafistolées, deux tubes de ventoline, un rouleau de sopalin, son portefeuille et la fiche Bristol sur laquelle il tenait sa petite comptabilité d'hôpital. Télé, chambre, 18 euros, 70 euros. Téléphone, 12 euros. Anne, distributeur, 60 euros. Dans le cabinet de toilette, avec des gestes précis, j'avais réuni dans sa trousse vert foncé le rasoir électrique plein de restes de barbe, les rasoirs Bic et la crème à raser, le bidon d'eau de Cologne Bien-être Lavande, dont il me faisait tamponner son mouchoir, la serviette éponge et le savon, glissés dans le gant encore humide. Mon frère avait déplié le fauteuil roulant, posé dessus la prothèse de rechange, les béquilles, le petit ventilateur Alpatec acheté chez Darty quelques heures plus tôt, la mort s'approchant semble donner chaud. Les sacs clairs, puis m'avait dit avec une douceur inhabituelle « Je descends à la voiture et je remonte. » Un mec pratique, mon frère. Je m'étais retrouvée seule avec lui, mon Maccabée, ma racaille unijambiste, mon roi misanthrope, mon vieux père carcasse, tandis qu'au dehors tombait doucement la nuit. Non, tandis qu'au dehors, en direct du 7e étage de l'hôpital de Poissy, tada ! Tellement magnifique ! Quelle écrasante beauté m'a été les lumières de la ville et le ciel orangé de la banlieue. Il aimait ça, les couchers de soleil. Il nous appelait toujours pour qu'on vienne les regarder. Les infirmières avaient fermé ses yeux, coincé son visage dans une mentonnière et habillé son corps d'une petite blouse vert pâle façon sweatshirt. C'était triste et drôle. Ça leur avait fait rire, cette petite blouse verte qui lui cachait à peine le genou. J'ai regardé son pied violacé, la vache. Le pauvre. Sa barbichette miteuse et son beau visage déserté. En gardant sa grande main qui tiédissait dans la mienne, j'ai souhaité de tout mon cœur ne jamais oublier son odeur et la douceur de sa peau sèche. Je lui ai demandé pardon de ne pas avoir vu qu'il mourait. Je l'ai embrassé et puis j'ai dit à haute voix « Ciao, je t'aime. À plus. Fais-nous signe quand tu seras arrivé. » Je suis sortie dans le couloir, lino au néon. Une aide-soignante est passée en savatant et mon frère est arrivé. On y est retourné une dernière fois, pour vérifier. Et puis on a plié les gaules, comme il disait toujours. La vie, cette partie de pêche. Dans le miroir de l'ascenseur, nos gueules d'adultes, défaites. Coucou, l'impact de la mort, bisous. Et la plus que certitude, en étant côte à côte, chacun avec sa part de gêne, qu'on était bien les enfants du défunt. On a juste dit bonsoir à une femme enceinte, souri à un interne. On s'est montré urbain, poli, digne dans la douleur. On a traversé le hall désert en silence, franchi la porte vitrée, atteint la voiture, mouip, mouip. Et puis on a pris l'autoroute. Déserte, elle aussi. Veille de Toussaint, lune claire, ciel dégagé, route à peine réelle. Quand on a démarré, l'autoradio a relancé le disque à l'endroit où il s'était arrêté. Un CD spécialement conçu par moi pour mon frère mélomane, en souvenir de notre enfance trash mais chantante. Là encore, pas beaucoup de mots, ni même de regards. Juste des larmes qui perlaient et qu'on chassait d'un revers de main. Les morceaux s'enchaînaient comme autant de berceuses. Et puis tout d'un coup, un peu avant en Porcheville, il y a eu Héloïse de Barry Ryan. Une déclaration d'amour, une supplique. Un morceau pompier, victorieux, épique. Héloïse, you know I'm on my knees. Un morceau un peu ringard, repris plus tard pour le générique français de la série L'amour du risque. Ça commence par la fin d'un fou rire, de ces rires qui se déclenchent après une bonne grosse blague, état risque quand il faut reprendre son sérieux, puis démarrent les violons, les cuivres et la grosse caisse. C'était absurde. Tant de glorioles, d'emphase et d'espoir ironique, tout de suite après tant de silence et de rien. C'était drôle. Tant de mise en scène et d'enflure après ce moment ténu, modeste, où la vie s'en va sans qu'on la remarque. La bonne blague, la barre de rire. Nos rêves intenses, nos espoirs Champs-Élysées et puis finalement, la vie crise cardiaque. La jambe en plastique et les masques à oxygène. C'était trop pour une seule journée. Alors, enfin, j'ai pleuré. Des grosses larmes d'enfant, des sanglots bruyants. Mon frère m'a tapoté gentiment la nuque en me souriant et puis on a ri. Cette chanson, après tout, c'était à peu près à l'image de ce qu'on avait toujours vécu avec nos parents. De l'amour, des cris, des drames. Du désespoir avec, en fond, des trompettes et des violons. Le lendemain et les jours suivants, on a emprunté cette même route, de bon matin et au couchant, pour aller s'occuper des papiers. À chaque fois, des cieux magnifiques. Des nuages de toutes les couleurs et des couchers de soleil comme j'en avais rarement vu. Visiblement, il était bien arrivé. Ensuite, il a fallu s'occuper des formalités. Elles ont commencé par une dispute avec mon frère aux pompes funèbres Le Creux et Fils, 27 600 Gaillon, parce qu'il trouvait que les cercueils étaient trop chers. Tandis que le Mazarin, le Parisien, le Richelieu, le Sully ou le Turenne, poignées comprises et cuvette étanche, évoluait vers des versions plus actuelles dans le respect de l'environnement et des familles, on serrait les dents. Tandis qu'une certaine Jacqueline M., dans une brochure triste et fleurie, se félicitait du « déroulement harmonieux de la cérémonie », on crevait de misère. Du racket organisé. Du délit d'initié. « Moi, monsieur, je ne marche pas dans votre marche de malade et vos combines de merde », avait dit mon frère à monsieur Le Creux-Fils, qui, de son côté, avait évidemment calculé une marge pour se dégager un salaire, ce qui semblait normal, mais quand même un peu grossier, compte tenu de ce qui venait de nous arriver. Au fond, j'étais d'accord avec lui sur l'obscénité de ce business de boîte, mais en ce moment difficile, ce n'était pas trop la peine de s'énerver parce qu'en réalité, la mort était déjà passée. Mon frère le tardif et ses révolutions manquées. Mais avec sa polaire vert sombre et son bermuda d'écolier, il a continué de monter dans les tours à toute allure et j'ai vite humé dans l'atmosphère les aigres effluves de sa violence. Un mouvement d'air familier, un assombrissement général du décor avant la fin du monde. Comme je commençais à avoir mal au ventre, le mode survie-soumission s'est enclenché tout seul. En tripotant la brochure et en regardant mes pieds, j'ai essayé tout doucement, en bonne fille adoucissante, concentrée fleur de tiare, de lui dire « Jean-François, calme-toi. C'est pas la peine de te mettre en colère contre ce monsieur qui nous reçoit une veille de jour férié. Mais Jean-François, c'est un despote déguisé en guide de montagne. Un alpha qui joue les Peter Pan, un Attila qui s'ignore. Alors faut pas trop le pousser, sinon il charge. Et l'herbe ne repousse jamais sur ton égo défoncé. » Il m'a jeté son fameux regard « dégage ». Et après un rictus cynique façon « tu sais qui tu me rappelles là ?» Il a continué d'engueuler le croque-mort et j'ai fermé ma boîte à camembert.